Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Première partie, la vie. 4. La nature de l'esprit. Suite. Le ciel et les nuages. Quel que soit notre mode de vie, notre nature de Bouddha demeure toujours présente et toujours parfaite. Nous disons que même les Bouddhas, dans leur infinie sagesse, ne peuvent l'améliorer et que les êtres sensibles, dans leur confusion apparemment illimitée, ne peuvent la dégrader. On pourrait comparer notre vraie nature au ciel et la confusion de notre esprit ordinaire aux nuages. Certains jours, le ciel est complètement voilé et du sol, en levant les yeux, il est difficile d'imaginer là-haut autre chose que des nuages. Pourtant, il suffit de se trouver dans un avion en vol pour découvrir qu'il existe au-dessus d'eux un ciel pur, illimité. Ces nuages qui nous avaient semblé occuper tout l'espace apparaissent alors bien petits et bien lointains. Efforçons-nous de garder toujours présent à l'esprit que les nuages ne sont pas le ciel et ne lui appartiennent pas. Ils flottent et passent là-haut d'une façon fortuite et légèrement ridicule. En aucune manière, ils ne peuvent tacher le ciel où ils laissaient leur empreinte. En ce cas, où réside précisément cette nature de Bouddha? Elle demeure dans la nature semblable au ciel de notre esprit, totalement ouverte, libre et sans limite. Elle est fondamentalement si simple que rien ne peut la compliquer, si naturelle qu'elle ne peut être corrompue ni souillée, si pure qu'elle est au-delà du concept même de pureté et d'impureté. Comparer cette nature de l'esprit au ciel n'est bien entendu qu'une métaphore pour nous aider à imaginer son caractère illimité et universel. La nature de Bouddha possède en effet une qualité que n'a pas le ciel, celle de la clarté radieuse de la conscience pure. Comme il a été dit, elle est simplement notre conscience claire, parfaite de l'instant présent, cognitive et vide, nue et éveillée. Dunjong Rinpoche écrivait : aucun mot ne peut la décrire, aucun exemple ne peut la désigner. Le samsara ne peut la dégrader. Le nirvana ne peut l'améliorer. Elle n'est jamais née. Elle n'a jamais cessé. Elle n'a jamais été libérée. Elle n'a jamais été victime de l'illusion. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais été inexistante. Elle ne connaît aucune limite. On ne peut la ranger dans aucune catégorie. Et Nyoshul Ken Rinpoche disait d'elle: profonde et tranquille, libre de toute complexité, clarté lumineuse non composée, par-delà l'esprit conceptuel. Telle est la profondeur de l'esprit des victorieux. En elle, rien n'a enlevé. Nul besoin de rien ajouter. C'est simplement l'immaculé contemplant sa propre nature. Les quatre erreurs. Pourquoi trouvons-nous si difficile de seulement concevoir la profondeur et la splendeur de la nature de l'esprit? Pourquoi cette idée semble-t-elle à beaucoup si étrangère et invraisemblable? Les enseignements font référence à quatre erreurs qui nous empêchent de réaliser immédiatement la nature de l'esprit. La première. La nature de l'esprit est simplement trop proche de nous pour que nous puissions la reconnaître, de même que nous ne pouvons voir notre propre visage. Il est difficile pour l'esprit de voir sa propre nature. Deuxième erreur. Elle est trop profonde pour que nous puissions la concevoir. Nous n'avons aucune idée de sa profondeur. Si c'était le cas, nous l'aurions déjà, dans une certaine mesure, réalisé. Troisième erreur. Elle est trop simple pour que nous y croyions. En réalité, la seule chose à faire est de demeurer dans la pure conscience de la nature de l'esprit, nue et toujours présente. Quatrième erreur, elle est trop prodigieuse. Pour que notre esprit puisse l'accueillir, son immensité même est si vaste que notre mode de pensée étroit ne peut la contenir. Nous ne pouvons simplement pas y croire, pas plus que nous ne pouvons imaginer que l'éveil est la véritable nature de notre esprit. Si cette analyse des quatre erreurs était valable dans une civilisation comme celle du Tibet, consacrée presque exclusivement à la poursuite de l'éveil, combien cela est-il encore plus tragiquement vrai dans notre civilisation moderne, consacrée en grande partie au culte de l'illusion? Il n'existe aucune information générale sur la nature de l'esprit. Les écrivains et les intellectuels n'y font guère allusion. Les philosophes modernes n'en parlent pas directement. La majorité des scientifiques nie qu'elle puisse même exister. Elle ne joue aucun rôle dans la culture populaire. Elle n'est pas mise en chanson. On n'en parle pas dans les pièces de théâtre et elle ne figure pas au programme de la télévision. En fait, nous sommes éduqués dans la croyance que rien n'est réel au-delà de ce que nous percevons directement au moyen de nos sens ordinaires. En dépit de ce refus massif et presque généralisé de reconnaître l'existence de la nature de l'esprit, il nous arrive parfois d'en avoir certains aperçus fugitifs. Ceux-ci peuvent être inspirés par une œuvre musicale qui nous émeut, par le bonheur serein que nous éprouvons par moments dans la nature, ou même dans les circonstances quotidiennes les plus ordinaires. Ils peuvent simplement survenir au spectacle de la neige tombant doucement, du soleil se levant derrière une montagne, ou devant le jeu mystérieusement captivant d'un trait de lumière filtrant à l'intérieur d'une pièce. De tels moments de grâce, de paix et de béatitude s'offrent à chacun de nous et étrangement demeure en nous. Je pense qu'il nous arrive d'avoir une compréhension partielle de ces aperçus. Mais la culture moderne ne nous fournit aucun texte, ni aucune structure qui pourrait nous aider à en pénétrer le sens. Pire encore, nous ne sommes pas encouragés à les examiner en profondeur et à en découvrir la source, mais plutôt, et ceci de manière explicite aussi bien qu'implicite, à les chasser de notre esprit. Nous savons que personne ne nous prendra au sérieux si nous essayons de partager ces expériences. Nous décidons alors de les ignorer. Pourtant, si seulement nous les comprenions, elles pourraient se révéler les plus significatives de notre vie. Cette ignorance et cette répression de notre identité véritable représentent peut-être l'aspect le plus sombre et le plus troublant de notre civilisation moderne. Tourner son regard vers l'intérieur. Supposons que nous fassions un revirement complet, que nous cessions de regarder dans une seule direction. On nous a appris à consacrer nos vies à la poursuite de nos pensées et de nos projections. Quand bien même on évoque l'esprit, il ne s'agit que des seules pensées et émotions. Lorsque nos chercheurs étudient ce qu'ils pensent être l'esprit, ils ne font qu'en examiner les projections. Personne ne regarde jamais réellement l'esprit lui-même, le terrain d'où s'élèvent toutes ces manifestations, et cela entraîne des conséquences tragiques. Selon les paroles de Padmasambhava, ce que l'on a coutume d'appeler esprit est généralement très estimé et fait l'objet de nombreuses discussions. Cependant, il demeure incompris ou compris de manière erronée ou partielle, parce qu'il n'est pas compris correctement en tant que tel. Voici que naissent un nombre incalculable idées et affirmations philosophiques. De plus, puisque les individus ordinaires ne le comprennent pas, ils ne reconnaissent pas leur propre nature. Ils continuent donc à errer au gré des reconnaissances, au gré des renaissances, dans les six états d'existence, à l'intérieur des trois mondes, et connaissent ainsi la souffrance. En conséquence, ne pas comprendre son propre esprit est une très grave erreur. Comment pouvons-nous désormais renverser la situation? C'est très simple. Notre esprit peut s'orienter de deux façons, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Dirigeons donc à présent notre regard vers l'intérieur. La différence qu'apporte ce léger changement d'orientation est considérable. Elle pourrait même inverser le cours des catastrophes qui menacent le monde. Si un nombre beaucoup plus grand d'individus avait connaissance de la nature de leur esprit, ils prendraient conscience de la beauté du monde dans lequel ils vivent et se battraient. Courageusement et sans plus attendre pour le préserver. Il est intéressant de souligner que bouddhiste se dit Nangpa en tibétain, ce qui signifie tourner vers l'intérieur. Celui qui recherche la vérité, non pas à l'extérieur mais au sein de la nature de l'esprit, tout l'entraînement bouddhiste, tous ses enseignements n'ont qu'un seul but, se tourner vers la nature de l'esprit, et ainsi nous libérer de la peur, de la mort, et nous aider à réaliser la vérité de la vie. Tourner notre regard vers l'intérieur exige de nous une grande subtilité. Et un grand courage. N'impliquant rien de moins qu'un revirement complet de notre attitude à l'égard de la vie et de l'esprit. Nous sommes tellement habitués à porter exclusivement notre regard vers l'extérieur que nous avons pratiquement perdu tout accès à notre être intime. Nous sommes épouvantés à l'idée de regarder en nous-mêmes parce que notre culture ne nous a donné aucune idée de ce que nous allons y trouver. Nous pouvons même craindre que cette démarche ne nous mette en danger de folie. C'est là l'ultime et ingénieux stratagème de l'ego pour nous empêcher de découvrir notre vraie nature. Nous nous créons ainsi une vie tellement trépidante que nous éliminons le moindre risque de regarder en nous-mêmes. Même l'idée de méditation peut être effrayante pour certains. Lorsque nous entendons des expressions telles que « sans ego » ou « vacuité », nous imaginons que faire l'expérience de ces états équivaudrait à être éjecté d'un vaisseau spatial pour flotter à jamais dans un vide obscur et glacé. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Mais dans un monde voué à la distraction, le silence et la tranquillité nous terrifient. Nous nous préservons par le bruit et par une activité effrénée. Examiner la nature de notre esprit est la dernière démarche que nous oserions entreprendre. Parfois, je crois que si nous éludons la question de notre véritable identité, c'est par crainte de découvrir qu'il existe une réalité autre que celle-ci. Qu'adviendrait-il à la suite de cette découverte de notre mode de vie actuel? Comment nos amis, nos collègues réagiraient-ils à ce que nous savons maintenant? Que ferions-nous de ce nouveau savoir? Avec la connaissance vient la responsabilité. Parfois, lorsque la porte de la cellule s'ouvre, le prisonnier choisit de ne pas s'évader. La promesse de l'éveil. Dans le monde moderne, il existe peu d'exemples d'êtres humains qui incarnent les qualités nées de la réalisation de l'esprit et de la nature. C'est pourquoi il nous est difficile de concevoir l'éveil ou d'imaginer les perceptions d'un être éveillé. Comment croire, a fortiori, que nous pourrions atteindre cet éveil nous-mêmes? Bien qu'en apparence notre société célèbre la valeur de la vie humaine et la liberté individuelle, elle nous traite en réalité comme des individus obsédés par le pouvoir, le sexe et l'argent, ayant constamment besoin d'être distraits de tout contact avec la mort ou avec la vie véritable. Si l'on nous parle de notre potentiel spirituel, ou si même nous commençons à en pressentir l'existence, nous ne pouvons y croire. Et si nous parvenons à envisager la possibilité d'une évolution spirituelle, celle-ci nous semble alors réservée aux seuls saints et grands maîtres spirituels du passé. Le Dalai Lama évoque souvent ce manque extraordinaire d'amour de soi et de dignité personnelle véritable qu'il observe chez tant de nos contemporains. À la base de cette attitude se trouve la conviction névrotique de nos propres limites, ce qui nous interdit tout espoir d'éveil et contredit tragiquement la vérité centrale de l'enseignement du Bouddha, à savoir que nous sommes tous déjà en essence parfaits. Même si nous en venions à croire que l'éveil est chose possible, un simple coup d'œil à ce qui compose notre esprit ordinaire, colère, avidité, jalousie, rancune, cruauté, luxure, peur, angoisse, agitation, découragerait à jamais tout espoir de l'atteindre. Si nous n'avions pas déjà entendu parler de la nature de l'esprit et de la possibilité de la réaliser avec certitude. L'éveil, pourtant, est une réalité. Il existe encore en ce monde des maîtres éveillés. Lorsque vous rencontrerez l'un d'entre eux, vous serez bouleversé, touché au plus profond de votre cœur. Vous réaliserez alors que des mots comme éveil ou sagesse, qui jusque-là ne véhiculaient que pour vous que des idées, correspondent en fait à des vérités. Malgré tous les dangers qu'il présente, le monde d'aujourd'hui est passionnant. L'esprit moderne s'ouvre lentement à des visions différentes de la réalité. De grands maîtres spirituels tels que le Dalai Lama ou Mère Teresa apparaissent à la télévision. De nombreux maîtres venus d'Asie viennent effectuer des séjours en Occident et y enseignent. Enfin, les ouvrages traitant de toutes les traditions mystiques attirent un public de plus en plus vaste. La situation critique de la planète sensibilise progressivement ses habitants à la nécessité d'une transformation à l'échelle mondiale. L'éveil, je l'ai dit, est une réalité. Qui que nous soyons, nous pouvons réaliser la nature de l'esprit et découvrir en nous-mêmes ce qui est immortel et éternellement pur. Si nous bénéficions des circonstances appropriées et de l'entraînement adéquat, c'est ce que nous promettent toutes les traditions mystiques du monde. Et c'est ce qui s'est réalisé et se réalise encore aujourd'hui pour des milliers d'êtres humains. Cette promesse a ceci de remarquable qu'elle n'est ni exotique ni fantastique. Elle ne s'adresse pas à une élite, mais à l'ensemble de l'humanité. Et les maîtres nous disent que nous serons surpris de la trouver tout à fait ordinaire lorsque nous la réaliserons. La vérité spirituelle n'est ni compliquée ni ésotérique. Elle relève du simple bon sens. Quand vous réalisez la nature de l'esprit, les voiles de confusion disparaissent les uns après les autres. À vrai dire, vous ne devenez pas Bouddha. Vous cessez simplement, graduellement, d'être dans l'illusion. Un Bouddha n'est pas une sorte de surhomme spirituel tout-puissant. Devenir Bouddha, c'est devenir enfin un être humain authentique. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort. Prochain épisode, suite de la nature de l'esprit. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.